This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
Vous écoutez
RMC.
Comme maintenant d'ailleurs, si vous êtes fan du foot anglais, le 32-16 est ouvert, on vous attend nombreux, parce qu'on va prendre le temps de présenter cette saison de foot anglais avant de faire la même chose avec le foot allemand dans quelques instants. On a Julien Laurence avec nous. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
En direct de Londres, bien sûr. Et attention, il est de retour, il est là. Et alors il revient quand l'Union Berlin monte avec Schmiedebar. Autant dire que là, c'est l'année Polo Breitner à venir. Ouais, Polo is back.
Le retour de Schmiedebar, là, franchement.
Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert. Bonsoir Daniel. Bonsoir à la drôle de dame anglaise que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer.
Je vous présente Polo, Julien, Polo. Alors Polo, comment te définir Polo ? Grand fan du football ouvrier allemand.
Moi ce que j'attends, c'est combien de temps il va falloir pour qu'il lui renvoie sa première ligue à la tronche. La supériorité des Allemands historique sur les Anglais en tout point et en tout domaine.
Mais là, il arrive.
Je pense que Julien, il va être un peu surpris parfois quand même.
Je rappelle quand même que Julien, il a mis Fred Hermel à sa place l'année dernière.
Par le terrain, effectivement, c'était un peu compliqué. Mais attention, ce qui est en train de construire le Bayern dans cet été me fait dire que ça va pas être simple à sortir en Ligue des Champions, cette équipe-là.
Alors, pour ceux qui connaissent pas Polo, ou qui se souviennent pas de Polo, ou qui découvrent Polo, Polo était avec nous pendant de nombreuses années dans l'After, il est de retour cette saison. Polo, à l'époque, c'était ça, par exemple.
S'il y a bien, je pense, aujourd'hui un pays en Allemagne qui travaille bien au niveau de la sélection, mais en amont avec les clubs, c'est l'Allemagne aujourd'hui.
Je souhaite une seule chose, soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Voilà, ça c'était du grand Polo.
Ah oui.
C'était du grand Polo, mais ça c'était la Coupe du Monde, tout ça, on était un peu fatigués, c'était très long la Coupe du Monde. Bon, on va démarrer par le championnat d'Angleterre, il y avait d'ailleurs un match ce soir, Julien, entre Wolverhampton et Manchester United.
Ça d'ailleurs, Polo devrait se poser la question, pourquoi commencer par l'Angleterre ? N'est-ce pas, Polo? C'est un peu étonnant.
Je dois répondre. la société McDonald's d'Hollywood, on connaît, quoi.
Et voilà, il est là.
On est bien parti.
Bon, alors, Wolverhampton, Manchester.
Ouais, un partout à Molineux ce soir entre Wolverhampton et Manchester United. Une première mi-temps très maîtrisée, très dominée par Manchester United avec un but d'Anthony Martial. Un très joli but d'ailleurs. Très bel appel en profondeur pour lui qui a encore débuté dans l'axe avec Rashford sur le côté gauche, Lingard en numéro 10 derrière lui un petit peu, et puis le jeune Daniel James,
Ça va être lui le 9 de l'équipe maintenant.
Ça va être lui le 9, effectivement. Et là, ça fait deux buts en deux matchs quand même. Avec là, il a une occasion, il marque un but. On va dire quasiment un petit peu comme contre Chelsea le week-end précédent. Ça commence à être intéressant dans ses mouvements, sans ballon, avec ballon aussi. C'est plutôt intéressant. Et puis tu sens qu'il commence vraiment à prendre confiance en plus dans cette position qu'il avait finalement peu. Il avait peu joué ces deux dernières années. Surtout, il avait plutôt joué sur un côté avec Mourinho.
Pendant un moment, certains disaient que sa vraie place, c'était quand même neuf à Martial.
Ouais,
alors que la qualité de ses courses ont fait que certains joueurs un peu prototypes Martial ont toujours été considérés en haut côté gauche. Quoi. Genre, je fonce, je repique et je tire.
C'est ça, je repique pied droit et je tire.
Ce qui est peut-être un peu stéréotypé et peut-être qu'effectivement, c'est un neuf. D'ailleurs, ouais, de formation, je pense que ça l'était.
Et tu le vois sur le but de ce soir, l'appel en profondeur dans la surface, il la reprend bien, coup de pied, pied gauche, sans contrôle, dans le bon timing, etc., sous la barre. C'est vraiment un vrai but de buteur et je pense que ça va lui faire du bien. Wolverhampton est très bien revenu après la pause. Adama Traoré est entré en jeu. Nuno Espírito Santo a fait un très bon changement. et Wolverhampton a été bien meilleur en seconde période.
Il faut rappeler que Wolverhampton c'est un club très portugais. Alors on dit
c'est
même
pas
que
un club très portugais, c'est une boutique.
La boutique de Mendes quoi.
Hein. Bah oui.
C'est ça, exactement. Il est le directeur sportif.
C'est les clubs nouvelle génération ça.
C'est l'ami Ruben Neves là, il a marqué.
Il a mis un but de dingue à Ruben Neves.
Ouais, fantastique. Et donc Raúl Jiménez avait frappé sur le poteau d'une tête, d'une superbe tête aussi juste avant, et sur le corner qui a suivi, jouer, c'est un corner travaillé à l'entraînement, joué à deux entre Moutinho et Jota, et Moutinho qui centre à ras de terre à l'entrée de la surface.
Moutinho qui joue encore, et qui,
Non, et qui joue encore, et qui, l'année dernière, il avait été excellent en genre de stratège, et puis là encore ce soir, quand son équipe va bien, c'est vrai qu'il domine le milieu de terrain.
Et comment c'est perçu en Angleterre, parce qu'on n'en parle jamais, donc autant te poser la question ce soir, ce genre de club là, je sais même pas comment appeler ça, nouvelle génération comme Wolverhampton, propriétaire, je sais même pas qui c'est, George Mendes sans être le vrai patron l'est quand même.
C'est le genre de club que Polo adore.
Il fait du recyclage de joueurs portugais pour de la revente. Enfin, comment c'est vu en Angleterre ce football là?
Ça fait un peu grincer des dents encore. Mendes est arrivé quand ils étaient encore en Championship et Mendes a transformé cette équipe, il a transformé ce club, il les a fait monter de Championship en Premier League parce qu'il a fait venir des Ruben Neves par exemple qui quelques mois plus tôt était capitaine de Porto en Ligue des Champions à 18 ans et qui s'est retrouvé en Championship à jouer à Barnsley et à Burton et à Rotherham. C'est sûr que forcément ils ont été très forts et voilà, donc ça a beaucoup fait parler, ça a fait grincer des dents un peu partout, mais il n'y a rien finalement.
Mais sur quel mode,
grincer les
dents,
en fait.
Sur quel mode on veut pas de ce genre de football là, ça nous plaît pas.
L'influence de Mendes et sur cette capacité. Après ils ont un propriétaire qui est très très riche, donc cette capacité aussi à dépenser beaucoup d'argent pour aller chercher des.
C'est qui proprio là-bas?
Des joueurs comme Ruben Neves. Donc il y avait un propriétaire. Il faut que je retrouve son nom. C'était un propriétaire anglais en fait qui a vendu, qui a longtemps gardé le club. Et qui a vendu le club, et je vais vous retrouver. Non, mais c'est vrai que Jorge Mendes est très impliqué depuis le début. On sait
oui,
très
c'est
bien
le patron.
Mais d'ailleurs, l'entraîneur est son pote. Hein.
C'est un consortium chinois qui a arraché le club et qui travaille depuis le début avec Mendes. Mendes d'ailleurs a beaucoup aidé pour le rachat du club. D'ailleurs, je pense qu'il a pris aussi un petit billet sur l'achat du club.
Bon, Mendes, pour environ 50 millions d'euros. Non, mais on peut pas croire un truc pareil, oui.
Donc voilà, c'est vrai que ça aide énormément et tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais ça n'empêche rien au fait que Nuno est un très bon entraîneur qui fait du bon travail aussi, qui fait progresser ses joueurs et qui c'est assez agréable à voir jouer aussi. C'est un club historique quand même.
Nuno Espirito Santo, là, c'était le premier joueur géré par Mendes.
Et
toujours son pote, et que maintenant il a placé comme coach de Wolverhampton. Alors, le 32-16 est ouvert, c'est maintenant. Si vous voulez poser toutes vos questions sur votre club à Julien, on parlera ensuite de l'Allemagne, bien sûr, avec Polo, mais n'hésitez pas. On va rentrer dans les détails des favoris de la saison, des éventuelles surprises. Alors, profitez-en, là, si vous avez une question spécifique sur Brighton, sur Norwich, ou autre, c'est maintenant plus que jamais 32-16. Appelez-nous ou bien vous envoyez un petit message sur Direct Studio ou sur le hashtag RMC Live. Alors sur le début de saison, on a un peu tout suivi hein, parce qu'évidemment tout ça c'est sur RMC Sport, donc on a les images, on voit tous les matchs. Pour toi, qui est le grand favori de l'année?
Manchester City et Liverpool, il n'y a aucun doute là-dessus, même si Tottenham avec son recrutement très intéressant.
Non, il m'en faut un, moi, pas deux. Hein.
Ah bah non, c'est le duo à deux, ça va être la lutte.
C'est dur de dissocier Liverpool et Manchester City. Si t'en veux un, je te donnerai quand même Manchester City, même si moi je pense que Liverpool sera champion, mais tout le monde ici a fait de City quand même le léger favori par rapport à Liverpool parce que ils ont gagné les deux derniers titres avec deux saisons incroyables, une à 100 points, une à 98 points. Parce que c'est Pep Guardiola, parce que Kevin De Bruyne va être comme une nouvelle recrue après. Voilà, après sa saison blanche, la saison dernière, parce que c'est quand même un groupe impressionnant, qui joue un football impressionnant. On l'a encore vu ce week-end, même si ils n'ont pas gagné contre Tottenham. Donc, légèrement favori, on sortirait Manchester City quand même.
Et dans ce qu'on a vu hier, est-ce qu'on n'est pas finalement à nouveau face à ce qu'est Manchester City? C'est-à-dire que sur la durée d'un championnat, bon, ça peut passer une ou deux fois, le fait de devoir gagner un match à 95% et on comprend pas comment ça peut finir 2-2, parce que c'est ce qui s'est encore passé hier. C'est absolument incroyable que Manchester City gagne pas le match, mais que en Ligue des Champions, sur deux matchs en aller-retour, se faire avoir comme ils se sont fait avoir par Tottenham, ça peut être encore préjudiciable.
Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, Guardiola, à la fin du match samedi, parlait encore du manque d'efficacité, ce qui n'avait pas été trop le cas lors des deux dernières saisons, les deux saisons historiques dont on vient de parler. Mais en revanche, sa première année au club, c'était déjà le problème. Et souvent, à la fin
oui,
des matchs...
Oui, la première année, c'était méga exactement. Frustrant.
Il se crée des occasions.
Les équipes qui, sur une occasion, marquaient, c'était insupportable.
Voilà, et eux, ils avaient besoin de 15 tirs pour marquer un but.
Ouais.
Et là, c'est un peu pareil. Hein. Il y a 30 tirs au but samedi contre Tottenham, 10 cadrés pour seulement 2 buts, donc, et des occasions vraiment gâchées avec des joueurs d'un tel talent qui ne devraient pas gâcher ces occasions-là, qui devraient les marquer. Et c'est vrai que c'est frustrant pour lui. Tu le vois sur le terrain, déjà, tu as l'impression qu'il a encore pris déjà 10 ans alors que ça fait que 15 jours qu'on a commencé la saison. Et il s'arrache le peu de cheveux qui lui reste parce qu'effectivement, ça doit être vraiment frustrant pour lui de se créer toutes ces occasions-là et finalement de pas voir ses attaquants marqués, ses milieux offensifs marqués ou même sur coup de pied arrêté aussi. Donc et encore plus avec la VAR qui cette fois encore un petit peu comme la saison dernière en Ligue des Champions leur
combien de temps en Angleterre vous allez mettre tous en avoir marre de cette cochonnerie.
Ah bah ça a commencé hein, déjà. Mais les Anglais font comme s'ils le découvraient en fait la VAR, comme s'il avait jamais, ça avait jamais existé, ni en Ligue des Champions, ni en Coupe d'Angleterre les deux dernières saisons. Ça fait quand même 60 matchs, donc quasiment toutes les équipes ont eu déjà la VAR.
Guardiola a tellement fait partie des entraîneurs qui ont voulu ce truc-là que qu'il se fasse avoir par la VAR à chaque fois. Et pourtant Dieu sait que j'aime Guardiola, bah ça me fait bien marrer quoi.
Ouais, alors et à chaque fois, mais après c'est un peu normal. Mais autant la saison dernière en Ligue des Champions, donc déjà contre Tottenham, il avait exulté sur le but de Sterling qui finalement avait été refusé pour un hors-jeu d'Aguero de
il avait
orteils.
Il avait été très fair-play d'ailleurs sur ce coup-là. Hein,
il est un peu moins fair-play quand même.
Il n'y avait pas eu que ça. Il y avait eu le fameux but de Llorente d'un bout de doigt qui dans l'autre sens peut donner péno.
Dis-moi toi personnellement, t'en penses quoi, toi, Julien?
Moi, je suis pour la VAR. Moi, je trouve que c'est ça prend les bonnes décisions.
Ça prend pas les bonnes décisions. T'as pas vu ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1 ou ce qui se passe régulièrement. Ça prend les bonnes décisions aussi bien que ça prenait prenaient les arbitres avant.
Ça devrait aider à prendre les bonnes décisions. Parce qu'après, il y a quand même parfois de l'interprétation.
Le résultat est que c'est exactement pareil.
Polo, pour ou contre, toi?
Mais Polo, il aime le foot.
Évidemment,
Polo.
Contre. Évidemment. Moi, j'aime le foot. Ouais. Attends, c'est ridicule, la VAR. Il y a même d'ailleurs une petite logique bourgeoise derrière la VAR. C'est que ça empêche toute forme de transgression. Ça empêche Maradona d'exister.
Bien sûr.
C'est ça, la VAR. Mmh. C'est de permettre à des gens qui ont de l'argent de se dire, nous avons la vérité, ça s'arrête au terrain.
Exactement.
Ce qui est complètement faux, d'ailleurs.
Ça enlève une partie de ce qui faisait la grandeur du foot et qui ne faisait que ça n'était pas qu'un sport. Ça, beaucoup de gens veulent pas. Le problème, c'est que même d'un point de vue de juste de la vérité, celle du terrain, ça ne dit pas la vérité. Je parle même pas du côté philosophique que tu essayes d'aborder là, parce que ça, évidemment, si les gens ne veulent pas rentrer dedans, on peut pas les forcer à comprendre le foot exactement comme on aimerait qu'ils le comprennent et s'ils ne veulent pas accepter ce qui a fait que ce sport soit bien différent et qu'il y ait autant d'émissions dans le monde qui en parlent bien plus que tous les autres sports, c'est pour cet aspect-là. Mais s'ils en veulent pas, s'ils veulent pas comprendre, peu importe. Restons-en sur le terrain et sur le rectangle vert et la fameuse vérité. Mais même cette vérité-là, elle est loin d'être évidente, très loin d'être évidente.
On est tout à fait d'accord.
Voilà. Bon, Julien, ça permet aussi à un nouveau absolue. Public. Pardon.
Ça permet à un nouveau public. Ça permet à ce nouveau public qui est arrivé, qui en général est plus aisé financièrement que d'autres avant, d'avoir l'impression de comprendre le football.
C'est vrai.
Ah, il est là, le Polo, lui aussi, il a disparu pendant 2 ans, mais tout à coup, le revoilà avec des nouveaux arguments. Bravo, Polo! Alors,
merci.
Je reviens à l'Angleterre. On me demande, première question là sur Twitter, comment Julien voit-il la saison d'Arsenal qui a bien démarré? Voilà, ce qui, évidemment, va te faire réagir, Julien, puisque je sais que Arsenal.
Ça
te plaît.
Ouais, ça me plaît. Alors, première fois depuis 10 ans qu'ils remportent leurs 2 premiers matchs de championnat. Ça, c'est plutôt une bonne chose, même si c'était contre Newcastle et contre Burnley. Tout n'est pas parfait, loin de là. Hein. Contre Burnley, par exemple, samedi, ils concèdent encore 16 tirs au but, je crois, dont 5 cadrés. Bon, l'équipe de Burnley, c'est une bonne équipe. Ils jouent un petit peu à l'ancienne. Ils ont des attaquants qui sont costauds, grands et qui sont forts dans les airs, etc., etc. Mais contre des grosses équipes, ça passera pas. Là, c'est vrai que défensivement, il y a du travail à faire. En revanche, offensivement, il y a des choses très très bien, comme déjà Aubameyang et Lacazette qui sont en forme. 2 buts pour Aubameyang sur les 2 premiers matchs, 1 but de Lacazette à domicile samedi contre Burnley. Dani Ceballos, qui est en prêt du Real Madrid, qui a fêté sa première titularisation samedi, qui a été très très bon dans un rôle de meneur de jeu,
un petit peu libre. Milieu, non, il a le profil un peu patron du milieu, lui. Hein.
Tout à fait. Il redescend assez bas à chercher le ballon, mais il a ses contrôles et cette première touche de balle toujours vers l'avant, systématiquement vers l'avant. Il cherche toujours à aller vers l'avant.
École espagnole. École espagnole.
Exactement, exactement. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi le Real Madrid l'a laissé partir en prêt. Quand ils cherchent des milieux de terrain exactement de son profil à lui, mais bon, tant mieux pour Arsenal, hein, même s'il n'y a pas d'option d'achat pour l'instant, en tout cas.
Ils ont beaucoup de monde au milieu, Arsenal, non ?
Oui, mais alors de son profil-là, qui est un peu un profil à la Cazorla, à la Ramsey, tu sais, qui finalement il y a pas trop dans cet effectif-là. Mais après, effectivement, il y a du monde, Guendouzi, Torreira, Chaka, et puis les petits jeunes comme Willock et Rhys Nelson, par exemple, qui sont en train de se révéler aussi un petit peu. Donc Emery a le choix, ça c'est sûr. Ce sera à lui de faire justement les bons choix dans pour ce groupe qui, par exemple, on en avait déjà parlé, Daniel, l'autre soir sur David Luiz. David Luiz, il est bien meilleur dans une défense à 3. Samedi, il a joué dans une défense à 4 et tu sens encore que parfois, il oublie un peu de se concentrer. Il regarde un petit peu à droite, à gauche, dans les tribunes. Il prend le soleil.
Ça va pas prendre longtemps à Londres, hein, t'inquiète.
Samedi, il faisait très beau en tout cas.
Mais justement, c'est pour ça que je te dis, ça va pas durer. Donc c'est bon, il sera tranquille.
Dis-moi, tu n'as même pas cité ton joueur préféré d'Arsenal, le joueur fétiche de Paulo Breitner.
Ah.
Le joueur qui fétiche de Paulo Breitner.
Un Allemand.
Ah. Bernd Leno.
Ah non.
Non, mais je parle d'Arsenal là.
Mais c'est qui l'Allemand à Arsenal ? Il y a un Allemand à Arsenal ?
Vous l'avez oublié ?
Le gardien, Bernd Leno.
Ah, Ozil.
Bah oui.
Ah, mais c'est Ozil.
Mustafi.
Non, je pense qu'il voulait parler d'Ozil. Il voulait parler d'Ozil.
Mais
il y a encore un cas Ozil à Arsenal.
À chaque fois qu'on parle d'Arsenal, on parle d'Ozil. Et là, vous me citez 50 joueurs, vous me citez même pas Ozil. Enfin.
Parce que pour l'instant, il a pas joué. Il a pas joué, mais c'est Ozil.
Il est toujours là.
Mais il va pas jouer là. Il y a six.
Bah alors, oui, on verra effectivement une fois que ces problèmes privés seront un peu résolus. Hein, cette histoire de
carjacking, c'est ça.
Voilà, exactement, de carjacking et puis de surtout la suite après, hein, ce qui a suivi avec des gens qui rôdaient autour de chez lui, qui se sont fait arrêter par la police. Enfin, je pense qu'il a eu très très peur pendant quelques jours, Mesut Ozil, il n'avait pas trop la tête au football. On verra quand il aura.
Déjà que ça faisait un moment qu'il l'avait plus, s'il l'a encore moins là, que ça va donner.
Donc on verra, mais après je pense que dans certains matchs tu auras sûrement besoin d'un joueur comme Ozil. Dans d'autres matchs peut-être pas. On verra déjà. Par exemple, dès ce week-end à Liverpool, comment Emery va jouer. La dernière fois qu'il y est allé, il a pris une jolie fessée. Est-ce que cette fois, il va les faire jouer très très bas pour jouer vite en contre avec Pepe, Aubameyang et Lacazette, par exemple? Est-ce qu'il va se priver de Lacazette encore une fois à l'extérieur, comme il l'avait déjà fait à Liverpool l'année dernière et sur d'autres matchs aussi parfois? Moi, je trouve qu'il a un bel effectif pour faire quelque chose d'intéressant, pour finir dans les quatre premiers. Financièrement, c'est vraiment vital pour eux de terminer dans les quatre premiers et de qualifier pour la Ligue des Champions, parce que les investissements qu'ils ont fait cet été, que ce soit dans la masse salariale, mais aussi dans ce qu'ils ont dépensé pour Pepe, bien sûr, pour Kieran Tierney, l'arrière-gauche du Celtic, pour Saliba, le défenseur de Saint-Etienne et tout ça, il faut un moment la Ligue des Champions pour récupérer une grande partie de l'argent qu'ils ont dépensé.
Ozil, en Allemagne, on en dit quoi, Polo ? Perdu pour la nation ?
Bah, ça fait un bout de temps déjà qu'il est perdu pour la nation. Mesut Özil, non, c'est par rapport à ce qui s'est passé à l'après Coupe du Monde, évidemment, c'est un peu compliqué. Özil, tu sais, moi, ça reste
toujours. Erdogan et compagnie, on s'en souvient.
Ah oui, oui, y a ça, mais le si tu veux, Özil, c'est encore une fois, moi, je dis toujours la même chose. Je n'ai jamais trouvé mieux que le titre qu'avait donné le journal Elf Freunde en Allemagne il y a quelques années, qui disait que Mesut Özil, c'était l'art minimaliste. C'est-à-dire, tu attends tout le temps quelque chose d'extraordinaire. Nous, on a vécu évidemment Zinedine Zidane. Moi, j'étais en Allemagne, j'ai vu arriver un petit gamin de 17 ans à Gelsenkirchen qui s'appelait Mesut Özil. Tu commences à le voir jouer, tu dis oh, extraordinaire. Et finalement, tu vas faire toute sa carrière. Il est passé, évidemment, il a ensoleillé Brême à l'époque. Il est passé au Real, ça s'est plus ou moins mal fini. Là, il est à Arsenal, etc. Là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a toutes les histoires extra sportives. Özil, c'est même la façon dont il est parti de la sélection sans au minimum prévenir le sélectionneur, c'est quand même extrêmement limite. Ensuite, les débats, tout ce qu'il a sorti, qui sont au passage assez intéressants sur certaines choses qu'il a écrites ou que d'autres personnes ont écrites pour lui. Mais bon, honnêtement, en Allemagne, on est dans la prévue.
Ah. Un problème de communication.
Oui, Polo est actuellement à Magdebourg et donc il faut rétablir une bonne liaison avec lui. Tiens, on a Arthur au 32-16 qui est là, qui va poser une question à Julien. Salut Arthur.
Bonsoir Lester.
Salut Arthur, on t'écoute.
Salut Arthur.
Alors Julien, moi j'aurais une question à te poser, c'est sur un club dont on parle très peu, et je comprends pas qu'on en parle aussi peu, du moins en France on entend très peu parler, c'est Everton. Everton, pour moi, ils ont quand même le niveau pour être au moins 7e, voire même pour éventuellement titiller le Big Six, au cas où une équipe fasse une mauvaise saison. mais on en parle très peu. Donc je voulais savoir comment est vu Everton en Angleterre.
C'est une bonne question, Arthur, c'est une très bonne question. Ils sont vus vraiment comme l'équipe, plus que Leicester, plus que Wolverhampton, plus que Watford même, l'équipe qui pourrait justement venir un petit peu déranger ce fameux top 6 avec les 6 plus gros clubs, les 6 plus gros budgets, les 6 meilleurs effectifs. Et que c'est cette saison, avec Marco Silva comme entraîneur, qui est un jeune entraîneur qui parfois, je pense que se perd un peu dans son coaching et il essaye un petit peu de jouer au Pep Guardiola, mais sinon c'est un très bon entraîneur et il a surtout un groupe excellent. Ça fait maintenant 3 étés qu'il dépense beaucoup d'argent pour des joueurs, soit des jeunes joueurs par exemple, on l'a vu hein, comme Mosey Keane qui est venu de la Juventus cet été, ou des joueurs même un peu plus confirmés.
Bah là ils ont fourni la Ligue 1 à l'intersaison là, parce que Gay, Onyekuru.
Ouais, qui sont partis. Onyekuru a jamais joué. Onyekuru était à Leicester, non?
Ah oui, il était prêté à Leicester par Everton, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et ça, exactement. Mais c'est vrai, non? Mais après, ils ont aussi une très bonne cellule de recrutement qui fait des très bonnes choses. D'aller chercher Lucas Digne, par exemple, qui a été l'un des meilleurs arrière gauche la saison dernière en première ligue, c'était très bon. André Gomez a fait des très bons matchs aussi. La saison dernière, après être arrivé de Barcelone, donc ils font des très bonnes choses. Maintenant, il y a aucun secret. Tu peux avoir des très bons joueurs. Tout va jouer au niveau de la constance cette saison. Il va falloir arriver à ne pas perdre des points contre les petites équipes forcément. Et puis après, dans les gros matchs, aller chercher des points à l'extérieur, notamment contre les gros, bien sûr, mais surtout à domicile à Goodison Park, d'en faire une genre de forteresse, notamment contre les très très grosses équipes, notamment dans le derby contre Liverpool par exemple, qui n'ont plus gagné, je crois, depuis 1999. Donc c'est compliqué, mais c'est peut-être jouable pour eux. Ça peut être la saison aussi où justement ils peuvent, avec une équipe de Chelsea qui va chercher un petit peu avec Lampard forcément, Manchester United, Arsenal, on l'a dit, il y a peut-être la place pour Everton justement pour finir sixième et accrocher enfin ce top 6 qui leur échappe depuis très longtemps, depuis les années David Moyes.
Arthur, tu es supporter particulièrement d'Everton ou
Non, pas du tout. Moi je suis supporter parisien, je regarde pas mal la Première Ligue. Et je me posais la question, pourquoi un club comme Everton, on n'en parle pas autant?
Bah oui, t'as raison. En plus, voilà, ils sont riches. Ils ont un stade magnifique, d'ailleurs. J'ai vu un reportage sur
L'Angleterre, c'est comme tous les pays. On parle toujours des clubs les plus médiatiques, souvent. À tort, hein, certainement, parfois à tort, hein, parce qu'il doit y avoir des belles histoires et des bonnes choses à raconter sur d'autres. Surtout qu'Everton, je le répète à chaque fois, mais dans le Big Five historique de la Premier League et pas les Big Four ou Big Six ou Big Cinq conjoncturels, Everton est dedans.
Merci Arthur.
En club historique, hein, Julien, tu confirmes?
C'est vrai, tout à fait.
Salut Arthur, merci beaucoup.
Salut les gars, merci.
Bonne soirée, à très bientôt. Question également sur Leicester. On me demande sur le hashtag RMC Live, est-ce que Leicester peut accrocher une Coupe d'Europe cette année?
C'est un petit peu effectivement la même dynamique qu'Everton. Très, très bon recrutement, notamment avec, par exemple, l'arrivée de Tielemans, qui était là en prêt déjà, mais qu'ils ont acheté de manière permanente.
Là-bas.
Voilà, exactement. C'est un très bon effectif, encore une fois. J'ai un peu plus de mal avec Brendan Rodgers, l'entraîneur, l'ancien entraîneur de Liverpool. Je suis pas encore tout à fait convaincu. Soit c'est un escroc, soit c'est un bon entraîneur, mais sans plus. Et voilà. Mais c'est vrai que sur le papier, effectivement, s'il trouve la bonne formule, si Jamie Vardy, qui a quand même 32 ans, continue à mettre des buts, s'ils sont solides derrière après avoir perdu Harry Maguire quand même cet été, lui qui est parti à Manchester United, qui est donc devenu le défenseur le plus cher de l'histoire, s'ils arrivent à rester solides défensivement, il y a moyen aussi de faire quelque chose d'intéressant. Mais j'ai plus de mal avec Rodgers que j'en ai avec Marco Silva à Everton.
Tu voulais dire un mot des débuts de Lampard avec Chelsea?
Oui, parce que ça a été quand même la grande histoire ici en Angleterre de cet été. La grande saga, va-t-il revenir, va-t-il pas revenir pour remplacer Mauricio Sarri? Il a fini par revenir. On savait qu'il pouvait pas recruter, même si Kovacic, encore une fois, qui était prêté par le Real, ils l'ont acheté de manière permanente. Giroud a prolongé. Ils ont fait revenir aussi quelques joueurs de prêt comme Zuma, par exemple. Mais tout le monde regardait avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup d'impatience les premiers pas de Lampard. Il y a eu des très bonnes choses, mais ils ont pris une fessée à Old Trafford 4-0, qui est très sévère par rapport à la finale du match. Ouais. C'est vrai.
Moi, je trouve qu'ils ont fait match de Super Coupe d'Europe.
C'est vrai. Ils ont peut-être été d'ailleurs la meilleure équipe des deux face à Liverpool, ouais, mais ils se sont encore inclinés. Et puis là, hier, contre Leicester à domicile, premier match à domicile de Lampard, avec une super ambiance, avec des super, super francs, sa fameuse chanson que les supporters ont chanté quasiment pendant toute la rencontre. Encore une fois, une très bonne première période où ils peuvent mener facilement 3-0 après 25 minutes de jeu, et au final, ils prennent qu'un point. Ils auraient même pu perdre le match en seconde période parce que Leicester est...
C'est-à-dire que tout va bien dans le jeu, mais ils ne concrétisent pas, quoi, pour l'instant.
C'est ça, ouais. Sur tous les matchs, et je pense que physiquement, c'est ça. Et physiquement, ils sont pas encore prêts pour pouvoir tenir 80 minutes ou même 70 minutes sur le tempo des 40 ou 35 premières minutes.
Ouais.
On va également dire un mot de cette histoire de mercato que les Anglais ont terminé cette année avant les autres, parce que ça fait débat en Angleterre, et je pense qu'on aura un avis de nous aussi et Polo également, donc on y revient dans quelques instants ensemble. Et puis juste une petite correction sur Onyekuru, il n'était pas prêté à Leicester mais à Galatasaray bien sûr, mais il appartenait à Everton. Allez, à tout de suite avec l'Angleterre et l'Allemagne ce soir au programme de l'After. On se retrouve dans quelques instants.
RMC L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Julien Laurence, avec Polo Breitner, bien sûr. Vous le savez désormais, l'After tous les lundis de 21h à minuit. Oui, on voulait parler de ce mercato parce que donc les Anglais ont décidé, ce que réclament beaucoup d'entraîneurs en France, notamment, de dire bon voilà, mercato terminé à partir de la première journée, sauf que ça fait débat en Angleterre même.
Ce qu'ils réclament surtout, c'est une homogénéité. Ce n'est pas le cas. Une bonne idée de faire plus tard, plus tôt, au milieu, machin, toi. Le problème, c'est que certains se sont rendus compte que après, tu dépendais des autres marchés, que c'était un peu problématique. C'est surtout ça le souci.
Julien.
C'est ça, effectivement. Et Mauricio Pochettino s'en est beaucoup plein encore après le match de samedi en disant que c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais la stupidité, comme vient de le dire Daniel, c'est que les Anglais, qui font jamais rien comme tout le monde, bien entendu, ont voulu donc effectivement que les clubs ne peuvent plus acheter une fois que le championnat avait commencé. Très bien, mais il faut que soit tout le monde le fait, soit personne ne le fait, parce que sinon effectivement tu t'exposes à ce que les autres clubs, les autres grands clubs, des autres grands championnats qui eux peuvent encore recruter jusqu'à la fin du mois d'août, contrairement à toi qui t'es arrêté encore une fois le 8 août la saison dernière, le 9 août cette saison, et que eux peuvent encore venir te prendre tes joueurs ou essayer de te les prendre, ce qui va forcément les déstabiliser. Par exemple, imagine un Christian Eriksen qui veut absolument partir de Tottenham, qui ne reste plus qu'un an de contrat.
Il veut partir de Tottenham.
Lui veut partir de Tottenham. Publiquement, ah oui. Il a dit moi je veux un nouveau projet, une nouvelle aventure, etc. Pour l'instant, personne n'est venu le chercher. Sauf que s'il arrive maintenant, et même si toi tu y as pensé un petit peu avant, t'es allé chercher Lo Celso, t'es allé chercher t'as encore d'autres options, mais tu l'as peut-être anticipé quand même, non? Ouais, un petit peu, mais ou alors prends Alderweireld par exemple. Alderweireld, c'est dans la même situation, il lui reste qu'un an de contrat. Il a une clause à 25 millions d'euros, qui pour moi, pour un joueur comme Alderweireld, c'est donné quasiment. Et c'est très possible que t'es un grand club espagnol par exemple, ou je sais pas moi, un grand club italien qui vienne et puis qui dise à Tottenham, bah voilà, on vous lâche sa clause est à 25, mais je vous lâche 40 millions d'euros pour acheter sa dernière année de contrat. Il est très content, lui il veut partir. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux plus le remplacer, donc il te reste Vertonghen et Davinson Sanchez plus le jeune Juan Foyt, l'Argentin qui est blessé en ce moment. Et puis après, et forcément, tu seras affaibli si Alderweireld s'en va, si Eriksen s'en va, et tu peux même plus les remplacer. Et je pense que Pochettino, alors que son propre propriétaire à lui, son président à lui, Daniel Levy, avait voté en faveur de cette réforme, comme 14 des 20 présidents de clubs anglais.
Ah, des fois, tu sais, on vote pour des choses, et puis après, on se dit, merde, pourquoi j'ai fait ça?
Exactement. Et c'est vrai que ça fait beaucoup parler, parce que, autant au début, tu te dis, c'est une bonne chose, mais alors, il faut le faire pour les achats, et dans ce cas-là, et les ventes aussi. Ça veut dire que tu dis, c'est terminé au 9 août, tu peux ni acheter, ni vendre. Mais dans ce cas-là, tu risques aussi de perdre de l'argent parce que tu peux plus capitaliser sur les trois dernières semaines des autres marchés. Ou alors, tu t'exposes, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce que d'autres grands clubs viennent essayer de te piquer tes joueurs quand toi, tu peux plus racheter derrière.
Bon, je sais pas si finalement nous en France on n'est pas tellement impacté par tout ça, jusqu'à preuve du contraire.
C'est trois semaines où tu pouvais jusqu'au bout essayer de refiler ta marchandise. Quand tu sais que les clubs français dépendent beaucoup des ventes, un club anglais qui faisait deux matchs pourris, qui se dit tiens je vais prendre un mec, et hop, et un chèque de 20-30 millions, parce que là-bas ça tombe très vite, qui tombe sur un petit club français qui bouffe son budget, quoi. Bah évidemment, tout le monde est impacté.
Ouais, forcément. Ouais.
Polo en Allemagne, un avis là-dessus ou non ?
Oui, non, mais ce que dit Julien est très intéressant parce qu'en fait, les Allemands, on avait assez marre en fait des appels des clubs anglais sur le football allemand et les clubs allemands. Et en fait, ils sont très heureux que ça finisse plus tôt parce qu'eux, ils se disent les prix vont se calmer et on va pouvoir commencer à faire ce qu'on a vraiment envie. mais c'est très intéressant parce que mais c'est très très intéressant parce que moi, je peux t'assurer, je l'ai vécu en direct l'année dernière. En direct. Quand j'étais à Schalke, les Anglais voulaient refourguer leurs marchandises, excusez-moi de parler trivialement, et ils n'arrêtaient pas d'appeler. C'était insupportable. C'est-à-dire que on parle toujours des Anglais qui achètent, mais je parle sous le contrôle de Julien, hein, mais aussi il y a aussi le moment où il faut un peu se dégraisser ton effectif, s'il y a des nouveaux cycles, etc. Et ils n'arrêtaient pas d'appeler. Donc, comme les prix ne sont pas du tout les mêmes, j'ai envie de dire que dans les autres pays européens, évidemment, parce qu'ils ont plus d'argent, ça fausse complètement le marché. Et là, le fait que ça finisse plus tôt, je peux t'assurer que Freddy Bobic à Francfort, par exemple, il souffle parce qu'il se dit, je vais pouvoir essayer de construire enfin mon équipe pour éliminer Strasbourg, n'est-ce pas ?
Non, mais c'est quoi cette provocation ?
Mais non.
On va en parler de ton Eintracht qui a perdu tous ses titulaires. Vous allez voir, vous allez tomber de haut, les gars.
Oui.
Bon. Sur l'Angleterre, autre chose à rajouter ? Ah oui, si.
Je crois que Polo va gentiment prévoir un écarissage.
Ah, dernière fois qu'il a prévu un écarissage, c'était il y a quelques années, ça lui avait pas réussi. Donc.
Et ben, j'en ai promis un ce week-end, et j'ai eu raison.
À l'écarissage de l'Union de Berlin par Leipzig ?
Non, de Dortmund sur Augsbourg.
Ah, on va en reparler. Dernière question, Julien. Question de Karim qui dit selon toi, Julien, quelles équipes vont descendre cette année ?
Ah, bonne question. Je pense que Newcastle, ça va être très compliqué pour eux avec Steve Bruce. Ils ont perdu en fait leur meilleur joueur avec Raphaël Newcastle. Benitez.
Tu sais que c'est le club qui me fait le plus de peine en Angleterre. Ce club
c'est
suscite
un public de dingue.
Ah, public de fou. Mais en
Magnifique
plus les
stade.
Mecs sont des malades de leur club. Vraiment, ils lâchent jamais. Ils rouspètent très peu et ils se rendent pas compte qu'ils ont toujours, enfin sur ces dernières années, une tripotée d'incompétents à la tête de cette équipe. Et les choix des entraîneurs, bon, ils se sont coltinés des années par Dieu. Là maintenant, ils ont pris Stevie Bruce. Bon, ils ont eu Benitez hein, quand même aussi, il faut le dire. Mais alors,
sans lui, effectivement, c'était ça. Donc, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Pour Sheffield United, même s'ils ont bien commencé avec une victoire ce week-end et un match nul lors de la première journée, je pense que sur la durée, ça va être compliqué pour Sheffield United aussi, même si c'est une belle histoire hein, de revenir après 12 ans d'absence. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est assez fascinant, et ça va plaire à Polo aussi, c'est que l'entraîneur de Sheffield United est un fan absolu de son club. Donc, il a été toujours supporter de son club depuis qu'il était gamin. Son père, son grand-père, toute la famille était supporter de Sheffield United. Aujourd'hui, il en est l'entraîneur en première ligue, comme le capitaine Billy Sharp aussi, qui lui était depuis tout petit abonné avec sa famille, avec son père à Sheffield United au stade et qui aujourd'hui est le capitaine de cette équipe en première ligue.
C'est un peu l'anti-Wolverhampton, en fait.
Journée. C'est ça, c'est ces belles histoires-là que tu as aussi en première ligue. Et donc c'est vrai que Sheffield United, c'est une belle histoire, mais j'ai peur qu'au niveau de la qualité, ce soit un petit peu trop juste cette saison pour pouvoir rester en première ligue. Et puis après, pour le troisième qui pourrait descendre, Aston Villa, même s'ils ont beaucoup recruté, je pense que ça peut aussi être un petit peu compliqué pour eux, même si eux aussi, hein, comme Sheffield United, ils ont un entraîneur et un capitaine qui sont tous les deux des supporters depuis toujours d'Aston Villa. J'aimerais bien qu'ils se maintiennent, mais ça peut être compliqué aussi. Et puis Norwich qui est un attaquant finlandais dont on reparlera, Timo Pukki, qui a été extraordinaire ce week-end avec un triplé contre Newcastle, justement. Mais sur la durée, encore une fois, Norwich pourrait sûrement redescendre directement.
Merci, Julien.
Merci, les gars.
Bonne soirée, à très vite. Polo,
oui.
La Bundesliga cette année est peut-être plus ouverte qu'il y paraît.
Ah, on dit ça à chaque fois.
Oui, c'est vrai qu'on dit ça à chaque fois, mais j'ai surtout l'impression que,
soit
que
fort,
c'est exact.
Soit
en fait.
Convaincant, je veux y croire. Allez.
Bon, la première chose, c'est que le Borussia Dortmund a fait un recrutement extrêmement intéressant, aussi bien en quantité qu'en qualité, en récupérant Mats Hummels en défense centrale, en allant récupérer donc trois internationaux allemands, donc Schulz qui manquait absolument au poste d'arrière gauche, et puis Julian Brandt de Leverkusen qui vient densifier le milieu de terrain où on a tout simplement quatre joueurs pour trois places, qui sont Julian Brandt, Sancho le petit prodige anglais, Marco Reus évidemment joueur de l'année, et puis Thorgan Hazard qui est arrivé de Mönchengladbach, qui est un joueur extrêmement intéressant. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que là, je vous parle même pas de Mario Götze, je vous parle pas d'un joueur que vous connaissez pas forcément qui s'appelle Wolf, qui est un très très bon joueur allemand au milieu de terrain. On ne sait pas quoi faire de Daoud, etc. Vous avez Paco Alcácer qui arrête pas d'empiler les buts les uns après les autres, qui est dans la même lignée que l'année dernière, mais par contre, il a fait des vraies préparations parce que n'oublions pas que l'année dernière, lorsqu'il a été récupéré par le Borussia Dortmund, il avait quasiment pas joué deux ans les deux dernières années au Barça. Faut pas l'oublier ça. Hein. Donc à ce niveau-là, c'est très très intéressant. Le Bayern a plus de difficultés parce que il y a une fin de cycle très claire. Ne l'oublions jamais, ça c'est quelque chose que les auditeurs et les téléspectateurs doivent comprendre. La période qu'on vient de vivre, la dernière décennie, est juste extraordinaire. Les 7 demi-finales en 9 ans du Bayern Munich, ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que tout ça, il faut valoir. Peut-être que le Bayern a tout simplement baissé un peu de niveau.
Mais Paulo, on s'arrête deux secondes sur le Bayern. L'année dernière, je le disais beaucoup au moment de Ligue des Champions, c'est là qu'on parlait beaucoup du Bayern. Effectivement, il y avait des joueurs usés. Le Bayern ne faisait pas pour moi figure de favori à la victoire finale en Ligue des Champions parce qu'il fallait tourner la page Robben, Ribéry, charnière centrale, Boateng, Hummels, des mecs un peu fatigués, un milieu de terrain que j'ai jamais trouvé très clair sur qui étaient les titulaires. Ça, je trouve quand même que en un été, il y a eu un sacré coup de frais dans cette équipe. Alors dis-moi, tu m'arrêtes évidemment si je me trompe et tout, mais la charnière, alors la défense va changer à moitié au moins avec Hernandez. Normalement on va te partir quoi, Lucas Hernandez et Soule titulaire.
Oui,
Soule on dit, ou Zule, Soule non, on dit, comment on dit,
Zule.
Bon. Donc charnière centrale neuve, même s'il était là l'année dernière, mais là on installe réellement on installe réellement une nouvelle charnière quand même.
Thiago en 6.
Oui, mais eux font pas partie des joueurs usés de l'ancienne génération. Ils sont arrivés il y a pas longtemps. Tous ces mecs-là.
Thiago Alcântara,
Ravi Martinez.
Ravi Martinez, il est cramé. Il est cramé. En plus, c'est la version défensive de Niko Kovac quand ils jouent en 6. Thiago Alcântara, c'est en fait le joueur clé du Bayern Munich. Le problème, c'est que c'est lui, si tu veux, qui doit mettre le tempo dans l'équipe. Le problème, c'est qu'il fait aussi beaucoup d'erreurs, Thiago Alcântara. C'est-à-dire que dans le schéma de Niko Kovac en 4-3-3, il joue devant Thiago Alcântara, t'as Thomas Müller, on sait toujours pas pourquoi il est quasiment systématiquement titulaire, et après à ses côtés tu as un duel, on va dire, entre Tolisso et Goretzka, l'allemand. Aujourd'hui, comme Tolisso a été blessé l'année dernière, si tu veux, c'est plus Goretzka qui est titulaire. Ce qui va être très intéressant, le problème, c'est que ce milieu de terrain fait beaucoup de fautes. C'est-à-dire que c'est pas, si tu te rappelles en 2018 la défaite en demi-finale contre le Real Madrid, où c'est plus le Bayern qui perd que le Real qui gagne, c'est parce que le Bayern fait toujours les mêmes fautes, et on a revu ça en Super Coupe d'Allemagne, on a revu ça ce week-end, et à chaque fois c'est Thiago Alcântara qui fait la faute, parce que on trouve toujours qu'il est merveilleux, mais il fait aussi beaucoup de fautes. Lewandowski, il en peut plus d'ailleurs à ce niveau-là.
Mais c'est quoi quoi les autres solutions au milieu? Cite-moi les autres joueurs.
Mais il n'y en a plus beaucoup. Il y a Renato Sanchez,
qui veut se barrer,
Bayern Munich, qui veut se barrer, parce que moi c'est pareil, il est arrivé beaucoup trop tôt ce joueur. Là il y a Cuisance qui vient d'arriver à 20 ans, il était même pas titulaire à Mönchengladbach aussi parce qu'il a été blessé, mais on rigole de Cuisance à Mönchengladbach. On dit à Mönchengladbach, on a dit, parce qu'il a un peu forcé son transfert quand même, on a dit que Cuisance devait penser que Mönchengladbach était trop petit pour lui, tu vois, pour voir le couloir qu'avait Cuisance. Il y a pas grand monde aujourd'hui. Alors il y a Coutinho évidemment qui vient d'arriver au milieu de terrain. Ah oui, alors quand je dis qu'il arrive au milieu de terrain, c'est parce que il a plutôt, c'est quelqu'un qui a plutôt joué sur l'aile, mais je pense pas que ce soit un véritable attaquant d'aile.
Il peut jouer devant avec Lewandowski plus 1, et voilà, dans le plus 1 il y a du monde quand même.
Voilà,
je trouve que le Bayern me plaît bien, moi. Alors après, oui, les limites au milieu, c'est vrai, ça peut être important. Je sais pas si Tolisso peut s'imposer cette année, je sais pas.
C'est Tolisso, moi ce qui me dérange en fait dans tout ce milieu de terrain, et j'inclus Goretzka dedans, c'est que ce sont des bons joueurs, c'est pas la question, les internationaux, quand t'es international français et allemand quand même, ça veut quand même dire quelque chose, mais ce sont pas des grands joueurs, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas Schweinsteiger au milieu de terrain, il y a pas de joueurs comme ça qui peuvent faire la différence, qui te disent c'est moi le patron, comme il y avait Philippe Lahm, il y a Kimmich aujourd'hui, mais on voit pas où est le leadership dans cette équipe. Et surtout, moi ce que je pense, c'est que la transition de cette équipe bavaroise, elle va pas se faire sur un seul mercato, elle va se faire, je pense, sur 2 ans. C'est-à-dire que déjà l'année dernière, le Bayern, n'oublions pas, a complètement dégraissé son effectif pour garder en prévision de ce qui allait se passer sur ce mercato. Il se fait que Leroy Sané, qui était quand même la priorité absolue, s'est blessé, donc ça met un peu en l'air. Ça met tout le bazar. Ça a mis un peu le bazar. Mais n'oublions pas que l'année prochaine, il y a deux joueurs qui sont en fin de contrat, qui sont des internationaux allemands, et il y en a donc ça c'est Timo Werner qui est à Leipzig, c'est Nübel, le gardien de Schalke 04, dont on dit qu'il est très proche de Manuel Neuer, si vous voyez ce que je veux dire. Manuel Neuer qui va sur ses 34 ans, ne l'oublions pas. Et puis, il y a un certain joueur qui est à Leverkusen, dont on annonce déjà qu'il va partir en 2020. Et qui s'appelle Kai Havertz, qu'on compare beaucoup
à un certain Michel Ballack. Alors, juste, on va nous rétablir une liaison, mais Kai Havertz, là, c'est le petit prodige du moment en Allemagne. Hein. Il faut que tu en dises un mot.
Ouais, alors c'est un joueur qui est à Leverkusen, qui a déjà marqué un nombre de buts assez extraordinaire, qui bat tous les temps de passage. On le compare beaucoup à Michel Ballack. Tu vois ce que c'est? C'est aujourd'hui la pièce la plus importante du Bayer Leverkusen. Et on dit, c'est ce qui se raconte, que...
Polo, es-tu là?
100 millions.
Quoi, ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, on va faire une petite pause et on se retrouve pour rétablir la liaison en direct de Magdebourg. C'est ça, hein, quand la Stasi écoute, il y a un peu des interférences. C'est un peu le problème. Et puis, on va parler du fameux club de Polo, l'Union Berlin. Parce que c'est quand même un club fantastique. Ils ont, je sais pas si t'as suivi ça, Daniel, ils ont eu une banderole l'année dernière en fin de championnat de Ligue 2. La banderole disait merde. On va monter. C'est-à-dire que eux, avec leur histoire et leur culture, ça leur convient pas forcément la Bundesliga. C'est une sacrée histoire que Polo va nous raconter dans quelques instants. On se retrouve tout de suite dans l'after avec une liaison avec l'Allemagne parfaite.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, bien sûr, c'est l'after 32-16, on parlait d'Allemagne jusqu'à minuit, on est là. Tiens, j'ai quelques messages avant de retrouver Polo. Michael qui nous dit très heureux du retour de Flo. Néanmoins, vous semblez souvent tomber d'accord, vivement, comme dans l'ancien temps, que vous vous mettiez un peu sur la tronche, c'est là que c'est le mieux, dit Michael.
Rarement, ça a rarement donné ça avec Flo.
Oui, bon, enfin bon, il y a des choses et des bonnes idées.
Il y a une légende là-dessus, mais il n'y a jamais eu de métage sur la gueule.
Au sens
non mais même
gentiment
mais pas trop en fait pas trop
gentiment
pas trop.
Et Polo est là bien sûr de retour oui. De retour avec nous oui on voulait finir donc sur Kai Havertz la future star ouais.
Donc
du foot allemand.
le futur du football allemand donc on va se méfier avec les futures stars parce que nous avons vendu quand même Mario Götze, nous avons vendu Draxler, nous avons vendu Özil, ils sont certes
Mario Götze c'est le buteur champion du monde et oh.
Non mais d'accord, mais depuis qu'est-ce qu'il a fait voilà, donc Draxler, qu'est-ce qu'il a fait ouais. Et, voilà. Et donc, Havertz évidemment est à Leverkusen, il est à la pointe. C'est un mix en fait, c'est un meneur de jeu et à 8 à la Ballack, tu vois, un peu à l'ancienne. Il a un volume de jeu assez extraordinaire. Et je crois beaucoup en ce joueur.
Ah, Polo.
Évidemment, il est bien conseillé.
Ouais.
Oui.
Tu es là, vas-y.
Oui. Et donc c'est un joueur que j'aime énormément et on dit que 2020, si tu veux, il pourrait prendre la direction de la Bavière, quoi.
Ouais, parce qu'évidemment le Bayern aspire.
Et c'est le Bayern, c'est fantastique. C'est-à-dire que là, on est en août 2019, les mecs ils sont déjà en train de se dire, alors donc en 2020, on aura lui.
Bah, de toute façon, le Bayern par tradition aspire absolument tout ce qu'il y a de meilleur dans le foot allemand. Avec les années, il y a pu y avoir plus de départs à l'étranger, dans les grands clubs à l'étranger, mais prioritairement, les Allemands veulent jouer au Bayern, quoi qu'il en soit.
Dis-moi, il y a beaucoup de Français en Bundesliga cette année.
Exactement.
Ça commence à devenir hype, hein.
Ouais.
Toi qui n'es pas très hype, si la Bundesliga devient hype, comment tu vas gérer ça?
Bah,
Oui, non, mais trop ce qu'il y a à la mode, faut quand même le dire.
Oui, non, mais c'est un peu. Non, mais c'est très intéressant parce qu'encore une fois, l'historique du football allemand, c'est les pays nordiques et les pays de l'Est, avec, j'ai envie de dire, deux pays satellites qui s'appellent la Suisse et l'Autriche. Mais le marché français, entre guillemets, est en train de devenir en effet à la mode, mais aussi parce que le marché français parce que déjà les clubs allemands peuvent payer, faut pas oublier. Il y a une évolution assez impressionnante des chiffres d'affaires de chaque club allemand. Et le joueur français, pour simplifier, et on peut l'acheter.
Ouais,
en Allemagne, on dit qu'il est deux fois moins cher qu'un joueur allemand. Faut quand même le dire.
Ah ouais,
dans
tous les championnats, on dit ça, hein, que les tarifs du produit français, c'est un peu la Chine du football. Hein.
Non, mais il y a quand même la stratégie allemande d'aller chercher des jeunes.
Oui, il y a tous les jeunes. Mais par contre, si Daniel et Gilbert, si vous me permettez, arrêtons de vendre le joueur français en Allemagne comme quoi c'est fabuleux, ceci, cela. Il va y avoir de la casse, hein. Parce que lorsque vous voyez les effectifs des clubs allemands, un Thuram que j'entends à longueur de temps à Mönchengladbach, lorsque le capitaine et international allemand Lars Stindl va revenir sur le terrain, Thuram, ça va être compliqué pour lui, hein. Les joueurs du PSG qui sont arrivés à Leipzig, qui sont à Leverkusen et tout ça, ils partent pas titulaires au départ, hein. S'ils sont dans les 18, ça devient pas mal.
Bah nous, Polo, on n'a jamais dit qu'ils allaient venir pour tout casser, hein.
Ah non, mais je cite
Polo prévient.
Vous êtes un petit coup d'hypertension sur ce dossier.
Voilà. Non, parce que je lis beaucoup de choses et si tu veux, on a l'impression que c'est.
Faut toujours faire attention à ce qu'on lit, hein. Tu le sais mieux que personne.
Oui. Voilà. Ça dépend.
Alors, je voulais que tu nous parles quand même de ton club, à l'histoire si particulière, l'Union de Berlin. Mmh. Donc, je disais avant la pub là, ils ont sorti une banderole l'an dernier en fin de championnat de D2. Merde, on va monter. Donc ouais. c'est second degré parce que j'imagine quand même que les supporters dans leur majorité veulent jouer à la Bundesliga. Mais enfin, dans l'histoire de ce club un peu particulière, c'est vrai qu'il faut s'adapter à, on va dire, à des canons dont les supporters sont pas forcément habitués.
Oui, alors la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est l'ensemble des supporters ou juste une fraction qui vit peut-être encore dans les années 60, à l'époque où la RDA existait encore. C'est très intéressant ce débat parce que tu as eu dimanche là, il y avait un match très important contre Leipzig. Je vous rappelle que Berlin-Est, où est le quartier de Köpenick, où est le club de l'Union de Berlin, dans le quartier de Köpenick, c'était à l'époque Berlin-Est. Quand tu affrontes Leipzig, c'est deux clubs de l'ex-RDA qui s'affrontent, sauf qu'ils ont deux développements complètement diamétralement opposés. Il y en a un qui est passé chez Red Bull, pour le dire d'une façon très simple, et l'autre s'est développé d'une façon petit à petit. L'Union est resté plus de 10 ans en seconde division, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union de Berlin, c'était un club qui était toujours eu des réactions extrêmement violentes contre tout ce qui est une forme d'autoritarisme, etc. Ce qui est très intéressant par contre,
écoute, on a du mal à, malheureusement, avec la liaison. On va essayer de rétablir ça une nouvelle fois avec toi tout de suite, hein, parce que bon, c'est un peu dommage de pas pouvoir tout entendre, donc on fait ça vite fait et
c'est que ce matériel allemand qui à une époque était bien plus
C'est le début de la saison. Il faut qu'on trouve nos marques, tu vois, y compris au niveau liaison téléphonique avec nos drôles de dames.
Mais on va au 21e siècle, en 2019, de téléphone.
On va y arriver.
Qui prennent son portable.
Ça me permet quand même de souligner un truc, Daniel. Reprise de la Bundesliga ce week-end, 45 000 spectateurs de moyenne par match en Bundesliga, par match. Hein. En D2 allemande, 22 000 par match.
Mais ouais, ça me surprend pas. On a l'impression que t'es surpris de ça.
Ah, mais
c'est toujours des chiffres excellents pour le foot en Allemagne, que ce soit les affluences au stade, la gestion des clubs.
Bon, après ils ont aussi les stades qui vont avec. C'est-à-dire que nous souvent on a un problème d'infrastructure qui fait que de toute façon tu peux pas atteindre ces chiffres-là puisque tu t'as pas les stades pour y arriver. Polo est-il de retour parmi nous? Dans 30 secondes. Dans 30 secondes, il sera là.
Plus rien qui.
Eh oui. Ça me permet de te glisser le trois petites infos mercato que j'ai pas donné. Vous dire notamment que Coutinho est officiellement prêté au Bayern par le Barça aujourd'hui. Ça a été officialisé. Voilà. Alors, un prêt payant, hein, prêt contre 8,5 millions d'euros. Donc c'est assez étonnant comme formule.
Prêt contre 8
millions. Oui, tout à fait.
C'est pas le prix du joueur, ça.
Eh ben, il a été prêté contre 8,5 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé.
Avec obligation d'achat à la fin.
Non. Et l'accord prévoit également une option fixée à 120 millions pour.
Je préfère cette option là.
Pour Coutinho. Et puis dans le mercato, vous signalez quand même qu'en France, je vous l'ai pas dit, mais Dijon a un nouveau gardien. C'est le Sénégalais Gomis qui vient de Spal, le club italien en l'occurrence. Polo, tu es là? Bon, ça va arriver dans quelques instants.
Complètement perdu alors.
Oui, effectivement, il arrive. Et puis alors en Allemagne, on va en reparler aussi avec Polo dans quelques minutes. Eunes va quitter la présidence du Bayern. Ça, c'est quand même un événement.
Ouais, c'était plutôt annoncé. Effectivement, ça va faire un bel événement en Allemagne. Ouais.
67 ans. Alors vous savez que le Bayern est historiquement dirigé par les joueurs, mais les choses pourraient changer, enfin par ses anciens joueurs, puisque pour lui succéder, l'homme qui est en pôle s'appelle Herbert Hainer, qui n'est pas un ancien joueur du Bayern, mais qui est l'ancien patron d'Adidas, qui avait été président par intérim du Bayern quand Uli Hoeneß avait été incarcéré, là, rappelez-vous, du fait de ces histoires de fraude fiscale. Donc Hoeneß ne sera plus là dans quelques temps, vraisemblablement. Est-ce qu'on a retrouvé Polo pour de bon ou pas ? Dans 15 secondes, me dit-on, Polo est de retour. C'est totalement chaotique.
Ben, il faut des secondes pour la, toucher quelqu'un. Non,
pour la reprise de l'Allemagne, Polo ressort ton Minitel, nous dit Ilan. Polo, es-tu là ?
Oui, je suis là.
Ah voilà, téléphone normal. Quoi.
Je suis là.
Voilà. Ce n'est pas la Deutsche Qualität, me dit Fabrice. Effectivement. Bon, désolé pour ces problèmes de liaison, messieurs, dames. On fera mieux dès demain, évidemment. Et on va organiser tout ça comme il faut. Oui, tu disais, Polo.
Je voudrais juste finir pour l'Union de Berlin. 30 secondes. Une action que j'ai trouvée assez fabuleuse, qui s'est passée donc dimanche à 18h pour la rencontre contre Leipzig. Il faut savoir que il y avait une action qui s'appelait Endlich dabei, pour relativiser ceux qui disent que l'Union ne voulait pas monter en première division. Ce sont des supporters de l'Union Berlin historique qui sont malheureusement décédés par le temps. Et ben en fait, on les a fait rentrer dans le stade, mais via des pancartes, tu vois. On leur a mis leurs photos, leurs têtes. Donc c'était volontaire, c'était gratuit. Les gens faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Ils envoyaient la photo d'une personne qui était décédée, mais ancien supporter, par exemple, de l'Union Berlin.
Un genre qui n'ont jamais voulu la Bundesliga et qui peuvent maintenant l'avoir pour de vrai, quoi.
Et voilà. Et en fait, on mettait leur tête en noir et blanc, évidemment. Et puis c'était porté par les actuels supporters de l'Union de Berlin. Et j'ai trouvé ça, il y en avait 450 en tout, en fait. J'ai trouvé ça personnellement assez émouvant.
Oui. Un peu glauque donc, peut-être. Non.
Pardon ?
Un peu glauque peut-être aussi, non ?
Non. Je vois pas pourquoi.
C'est assez émouvant, je trouve.
D'accord. Bon. Très bien, si vous aimez. Donc on va suivre l'Union de Berlin. Alors surtout qu'il y a ton célèbre Schmiedebar, hein, parce que Schmiedebar pour les
historiques. Ouais, il n'a pas été titulaire.
C'était le joueur de Polo.
Mec, il a raté sa carrière. Il paraît qu'il était un peu trop porté sur la bouteille.
Non, Schmiedebar, non, je pense pas. Non. Moi, j'ai pas découvert.
Pourquoi il a pas percé ?
C'est quelqu'un d'extrêmement taiseux. C'est quelqu'un d'extrêmement taiseux qui parle pas beaucoup, qui avait peut-être un peu d'ambition. Ah. Mais je rappelle qu'en 2011. On l'envoyait plutôt au Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, hein. Donc voilà.
Voilà, en tout cas, tu misais fort sur lui au début de sa carrière. Il est toujours là, et en plus dans ton club.
Il était un des deux, mais il est toujours là. Et je pense que, je sais pas, est-ce qu'il y a des dossiers dont on doit reparler sur la Bundesliga, mais au-delà du recrutement dont tu nous as parlé tout à l'heure, là, je t'ai vite emmené sur le Bayern. On a peut-être écarté un peu vite Dortmund, mais quand je te disais je veux y croire, vends-le-moi, parce que l'année dernière, pendant je sais plus si c'est 4, 5 mois, 6 mois, Dortmund volait, et exactement. Évidemment nous on aimait beaucoup, on regardait, on aime tous Lucien Favre, et puis bah finalement comme ça semblait quelque chose d'inexorable, le Bayern est revenu, le Bayern a été champion, et ça a l'air d'être toujours la même histoire. Qu'est-ce qui peut faire que ça ne soit plus ?
Bah, en fait, déjà, c'est pour éviter ce qui s'est passé l'année dernière, faire un véritable banc avec des joueurs de même niveau. Le Borussia Dortmund a 20 à 25 joueurs qui sont titularisables aujourd'hui, à l'inverse du Bayern Munich. Mais ce que tu dis est tout à fait exact, puisque ce qu'on oublie, c'est que lorsque Dortmund se fait plumer en Ligue des Champions face à Tottenham, c'est le début en fait du Dortmund qui est pas du tout au même niveau que ce qu'on avait vu au match aller. Erreur, notamment par un banc beaucoup plus impressionnant, par l'expérience aussi. C'est pour ça qu'un Mats Hummels revient à 30 ans à Dortmund. Et donc voilà, il y a tout pour que. Il y a tout pour que ça marche.
Tu penses qu'on a corrigé, on a corrigé ce qui a manqué, quoi. C'est la profondeur de banc et un peu plus d'expérience. C'était les deux défauts qui avaient été pointés.
C'est ce qu'on a cherché à faire. Ouais. Tout en sachant que Lucien Favre, quand même, a été un petit peu épinglé l'année dernière, puisque n'oublions pas qu'il était passé au Hertha Berlin et il a été en course longtemps pour le titre avant de s'écrouler, qu'il a été à Mönchengladbach où il a été longtemps en course pour le titre, et il s'est écoulé sur la fin, et on a l'impression qu'avec le Borussia Dortmund, il se passait un petit peu la même chose, c'est-à-dire souvent placé, jamais gagnant.
Le mec qui ne sait pas finir. Quoi.
Alors j'aimerais qu'on conclue sur un petit sujet là. Il y a une tendance en Allemagne, une tendance de jeu, incarnée par des nouveaux coachs. Alors il y a un axe, Polo, Ajax, Hoffenheim, tout ça, des mecs comme Tourelle, Klopp, Rangnick, enfin c'est un peu la tendance du moment. Je voulais que tu nous en dises un mot pour conclure.
C'est qu'en fait, c'est les gens en Allemagne qui critiquent notamment les nouveaux clubs comme Hoffenheim, comme Rasenballsport Leipzig. J'ai pas de position morale par rapport à ça. Ce sont des dossiers qui mériteraient d'être expliqués plus en détail. Oublie qu'aujourd'hui, la majorité des clubs, des coachs allemands et des coachs étrangers, notamment néerlandais, proviennent de 4 clubs, 3 en Allemagne et 1 à l'étranger. En gros, tu as la Galaxie Red Bull, Leipzig, Salzbourg.
Ouais.
Tu as Mayence. Rappelez-vous que Tuchel et Klopp sont passés par Mayence. Mm-hmm. Tu as l'Ajax d'Amsterdam avec deux coachs, Peter Bosch, évidemment, ancien de l'Ajax, finaliste de l'Europa League 2017, qui aujourd'hui a été à Leverkusen. Tu as Schröder, qui est de l'ancien de l'Ajax, qui est arrivé à Hoffenheim. Et tu as donc ce fameux Hoffenheim, donc, qui est le début, en fait, de la technique, c'est-à-dire de la révolution footballistique allemande. Et en fait, aujourd'hui, 12 coachs sur 18 sont issus de ces quatre clubs. C'est-à-dire qu'ils ont été... Soit ils ont été... Non, mais c'est tout ça, en fait, le phénomène Ralf Rangnick, en fait, en Allemagne. C'est qu'en fait, c'est des bébés Rangnick qui arrivent tous. Ils sont tous imprégnés par Klopp et par Tuchel, donc Guardiola, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a des matchs qui sont assez spectaculaires lorsqu'on regarde la plupart des équipes. C'est assez impressionnant, en fait, comment Leipzig et Hoffenheim, qui ont été critiqués, balancés dans la boue, tout ce que vous voulez, parce que c'était, il y avait un côté milliardaire à Hoffenheim avec Dietmar Hopp. Et évidemment, il y a Red Bull avec son patron Matevic à Leipzig, sont en fait les deux clubs qui influencent le plus aujourd'hui la révolution footballistique allemande.
Ah bah donc ils jouent tous pareil mais bien.
Voilà, mais
ils jouent tous pareil mais bien. Et en fait, les six joueurs, non mais c'est assez impressionnant. Je voudrais dire, la saison qu'on a vécue l'année dernière, qui a été évidemment médiatiquement phagocytée par le duel Bayern, ça a été assez extraordinaire le niveau match retour de Leipzig. De Leverkusen qui a revenu du Diable Vauvert, de Francfort qui n'y arrivait plus, mais avec sa demi-finale d'Europa League à 18h, c'est un ancien de Salzbourg, hein, faut pas l'oublier, ça, le coach. On a eu un championnat avec Hoffenheim, Nagelsmann qui s'écroule à la fin, qui aujourd'hui est à Leipzig, avec Wolfsburg qui revient, qui a pris un coach autrichien qui s'appelle Glasner, qui est un ancien aussi de Salzbourg. C'est ça aujourd'hui le football allemand, okay. C'est assez impressionnant. Voilà.
On y reparlera et on en reparlera cette semaine notamment parce qu'il faudra que tu nous dises tout de Francfort avant le match de jeudi soir d'Europa League contre Strasbourg, bien sûr. Merci Polo.
Merci à vous. Au revoir.
Salut. Et comme promis, on va établir des liaisons téléphoniques au top avec l'Allemagne. C'est en construction. Voilà, et ce sera en place dans l'after.
En construction.
Dans quelques heures, je l'espère. Demain, on sera là à 21h avec toute l'équipe, bien sûr, habituelle de l'after. C'est la rentrée. Des surprises demain, vous allez voir à 21h. Je vous dis pas tout. Soyez au rendez-vous demain soir. Donc, avec nous sur RMC. Bonne nuit à tous.
RMC. L'afterfoot.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.